Bayonne, il est une peña, la peña Bayona. Ils portent fièrement partout leur foulard bleu et blanc. À Daxo, à Narbonne, on ne voit plus que ces gars-là qui ont dans le cœur leur cher joueur du rugby roi. À Jean Daugé ou bien partout à l'extérieur, sur tous les stades enfiévrés, elle nous met tant d'ardeur. C'est la Peña qui crie sa joie sur ces terres-là. Allez, allez, c'est la Peña Bayona. On est tous là, allez les gars, encore une fois. Allez, allez, les bleus et blancs.
Sur la musique de la Peña Bayona, nous sommes de retour pour l'émission de Sport Show. Alors justement, la Peña Bayona, c'est la région Aquitaine. J'ai une pensée pour Grégory Patate, qui vit ses derniers moments à l'aviron bayonnais. Et j'espère qu'il n'a pas en travers.
Oui, c'est le cas de le dire. Mais c'est vrai que, bon, nous, on aime bien cette musique, cet hymne. Mais c'est vrai qu'en ce moment, ça ne va pas trop bien du côté de l'aviron bayonnais, qui était invaincu sur son stade, mais qui a encore perdu ce week-end.
Oui, et qui a pris 40 points.
Oui, c'est ça. Ouais. Donc c'était face à qui, je ne me rappelle plus.
Le Racing.
Le Racing, c'est vrai, le Racing. Mais le Racing qui remonte petit à petit, qui est pas mal, qui est venu nous taper, je crois, ici aussi.
Non, ils en ont pris 40 ici.
Ah, ici, mais c'est là-bas qu'on a perdu.
Oui, voilà.
On a perdu là-bas, parce qu'on a perdu les deux équipes parisiennes, je crois.
Oui, mais le Stade français nous a battu ici, par contre. Tu confonds peut-être
les
deux.
Voilà, c'est ça. Le Stade français nous a battu ici, mais nous, on a perdu le Racing là-bas, au début de la saison.
Voilà, tout à fait.
C'est vrai. Ça.
Donc, voilà. On est en période, le bateau bayonnais tangue.
Tangue, c'est le moins qu'on puisse dire, effectivement. Mais nous, on aime bien chanson. Voilà, on l'aime bien, c'est assez entraînant pour commencer notre émission. Ça nous met en joie à chaque fois. On verra si on ne peut pas changer de générique un de ces jours. Mais enfin, bon,
on fera Paquito si vous voulez.
Voilà, Paquito.
On le fera sur le plateau pour la dernière émission de l'année.
De l'année, oui.
On ne sait pas quand encore.
Mais là, nous allons parler sport.
Oui.
Alors là, pour commencer, je ne sais pas où il en est. Il faudrait que je voie les résultats.
Non, alors ce qu'on voulait dire pour commencer, oui. Parce que les auditeurs qui nous suivent sur les réseaux sociaux, même si j'ai un petit peu coupé les réseaux sociaux pour raisons personnelles.
Oui, voilà, tu as eu quelques soucis.
Voilà, sur Instagram, j'avais annoncé notre invité qui finalement ne sera pas là.
Oui, voilà.
Monsieur Closet Frédéric,
oui.
Qui est président de Bruges à la pétanque.
Et aussi du comité de Gironde.
Comité de Gironde qui sera avec nous la semaine prochaine.
La semaine prochaine.
Une émission parce qu'ils vont faire quelque chose pour les personnes handicapées également. Donc ça sera intéressant à savoir qu'on parle beaucoup de boccia avec Johan.
Oui.
Mais il y a vraiment la pétanque en fauteuil.
En fauteuil,
c'est
oui,
ça
oui.
aussi dont il viendra nous parler.
Et puis il va monter une école, je crois.
Exactement.
De pétanque, etc., du côté de Bruges.
Oui.
Donc c'est intéressant. Moi, qui suis à
Bassins, oui, tout à fait.
Ouais, à 500 mètres de l'espace Garonne, qui est le vélodrome, le magnifique boulodrome de Bassins. Et puis avec le grand club de Bassins qui a été champion de France, etc. Donc j'ai toujours adoré la pétanque. Et quand on voit qu'aux Jeux Olympiques 2024, c'est à Paris, c'est pas la pétanque qu'on a invité, c'est le street machin. Là.
Ah oui, la danse là.
Ouais, donc
le breakdance.
Le breakdance pour faire plaisir aux jeunes.
Mais d'ailleurs, notre stagiaire qui est avec nous va faire de la breakdance, il m'a dit.
Je pense que la pétanque aurait mérité mieux, parce que c'est vrai que c'est...
Et on aurait peut-être une chance de médaille.
Oui, en plus, une réelle chance de médaille. Et puis
avec mon homonyme, c'est Dylan Rocher.
C'est un vrai sport. Et là, en ce moment, nous avons un peu la pétanque sur glace.
Ah, je savais que t'allais la faire.
Nous suivons le curling avec passion tous ces jours-ci.
Le fameux Autriche-Italie était fabuleux ce matin.
Ce matin, moi, j'ai regardé quoi ? J'ai regardé un Suisse-Suède, il me semble.
Oui, c'était pas mal.
C'était pas mal. Voilà, donc au bout d'un moment, c'est technique, il faut rester concentré parce que ça dure très longtemps et à des moments, on peut avoir une pierre qui se détourne un peu.
On parle de ces sports-là, mais à la télévision, tu sais ce qui est beaucoup diffusé aussi ? Le billard.
Enfin, oui, ça snooker. C'est le snooker, voilà. Le snooker. C'est ce qui rapporte le plus, donc pour. Oui, donc souvent je regarde le snooker, oui, c'est vrai aussi.
Alors je ne sais pas si on est bon parce que je ne vois pas souvent les Français, mais enfin.
Non, voilà, c'est plutôt les Asiatiques et les.
Et les Anglais.
Et les Anglais, ouais, qui sont forts dans ce domaine. C'est une particularité, nous on est plutôt. Parce que le billard français à trois bandes, etc. Là c'est un billard à trous, ça doit être un billard style américain plutôt. Voilà.
Le billard c'est plutôt un truc de bar, hein, d'ailleurs. Guillaume,
oui, d'ailleurs, de bar.
C'est
oui,
comme le baby-foot.
Et voilà, comme le baby-foot, où on apprend, où on a appris il y a quelques jours que, grâce à un sujet qui est passé sur ici Gironde, voilà, oui. Que les bouchons, enfin les ballons de baby-foot sont faits en liège.
Oh.
Voilà.
Ah oui.
Donc il faut le savoir. Ce sont des bouchons, des ballons en liège.
Est-ce que notre prochain objectif sur Renault Radio, c'est pas d'inviter un genre de baby-foot ?
De baby-foot, mais bien sûr, pourquoi pas ?
Et pourquoi pas ?
Pourquoi pas ? C'est, voilà, ça fait partie des sports qui sont pas forcément médiatisés. Alors ce matin, alors je sais pas où il en est, c'est que ce matin, moi j'étais avec lui, je le suivais de près. Nous avions le combiné nordique qui est l'alliance entre le saut à ski et le ski de fond, puisqu'il y a deux compétitions. Et donc, nous avions le numéro un. C'était notre ami qui était...
Inamoto.
Qui était japonais, mais il s'appelle Yamamoto. Alors Yamamoto, on peut comprendre qu'il soit bon, il était premier, mais parce qu'il avait une moto, quoi, hein, donc ça facilite les choses. Mais quand il est passé sur les skis, il avait pas mis les pneus neige et il s'est fait doubler. C'est dommage.
C'est comme je remercie RMC, je crois que c'était lundi soir. Ils nous ont vendu le patinage artistique, le français va être médaille d'or, machin.
Oui, voilà.
Au bout de 30 secondes...
ils étaient tous,
par terre.
L'américain, le français...
C'est le kazakh, 28e voilà. Mondial, je crois que personne ne le connaît, mais il est champion olympique.
Il est champion olympique, et donc l'avantage, c'est que le Kazakhstan, on le connaît de plus en plus, notamment... On va pouvoir en rire,
oh là oui.
Avec un joueur des Girondins qui se retrouve beugré, qui se retrouve au Kazakhstan.
Je donnerai pas le nom du club parce qu'il est imprononçable.
Oui, c'est pas Almaty, non ?
Non.
Non, c'est pas Almaty.
Mais
voilà, donc on commence à connaître le Kazakhstan.
Et avec Vinokourov, je crois, qui était cycliste.
Oui, le Kazakhstan.
Alexander Vinokourov.
Vinokourov, il a fait partie des dopés, lui, non ? Il n'a pas été dopé, je crois.
Alors vous rendez compte, on est sur Renault Radio, on parle du Kazakhstan.
Oui, voilà. Le Kazakhstan qui se retrouve à presque 5000 km ou 6000 km de la France. Il y a les joueurs de foot qui y vont souvent parce que ça fait partie maintenant
de la
Coupe d'Europe et qui font tous, même le Real de Madrid et tout, et qui vont là-bas au fond à Almaty.
Je crois que le Real y a été au mois de novembre.
Oui, c'est ça. Ils vont au Kazakhstan. Eh bien, nous, on a un joueur qui est parti là-bas, au Kazakhstan. On lui a dit, va faire tes classes au Kazakhstan.
Sans te mentir, je crois que le dernier match de Coupe d'Europe que j'ai vu au Matmut, maintenant on dit Stade Atlantique.
Ah, Stade Atlantique.
C'est Bordeaux-Almaty.
Almaty.
En préliminaire de Europa League.
D'accord. Bon, parce que je sais
que. Et oui, Bordeaux a fait la Coupe d'Europe. Hein.
Parce qu'il y a toujours deux pays que je confonds. Il y a le Kazakhstan.
Et la Béarn. Non?
Oui, est-ce qu'il n'y en a pas un autre un peu plus loin encore ou...
Je ne sais pas, mais déjà le Kazakhstan, c'est très loin.
Oui, c'est très loin, mais je crois que tu as encore un plus au fond, je ne sais pas, un des pays là, comment ça s'appelle?
Et Paphos de Ferreira, c'est quoi? C'est la Grèce ou c'est le Kazakhstan aussi?
Non, Paphos, c'est la Grèce.
Je ne suis pas sûr.
C'est Chypre.
C'est Chypre.
Oui, c'est Chypre.
Autant pour moi, c'est Chypre.
Oui, c'est Chypre. C'est la Méditerranée, c'est plus...
Il y a un ancien joueur du Paris Saint-Germain qui joue.
Oh, sûrement,
David Luiz.
Ah oui, d'accord. Oui, sûrement. Mais forcément...
Un peu de géographie dans cette émission.
Oui, un peu de géographie. Mais bon, l'avantage, c'est que bon, l'île à Chypre, c'est plus près quand même que le Kazakhstan. Parce que le Kazakhstan, t'es au bout du bout, quoi, pour l'Europe.
20 heures d'avion, c'est fabuleux.
C'est des trucs un peu... Voilà.
Donc c'était l'instant.
Les nouvelles, alors bon, c'est.
Géo. Parce que je sais que tu le lis, Géo, hein, Guy. Donc,
ah oui, je le lis également. Et donc là, et bien, encore une fois, on profite donc de ces Jeux Olympiques d'hiver où nous, on n'y connaît pas grand-chose quand même.
Ouais, j'ai vu qu'en hockey, on était vachement fort.
Voilà, donc j'allais en parler, l'équipe de hockey française. A pris encore 3-1 face à l'Allemagne. C'était le match de barrage.
Bon, donc, ah oui, ils ont tout perdu, mais ils sont en barrage. Ah
ils,
oui.
Ils étaient en barrage, ils ont perdu face à l'Allemagne. Donc maintenant, pour eux, c'est terminé. Voilà, c'est fini. On passe au quart de finale. Et donc, bon, pour la France, c'est fini. Mais enfin, on se demande comment ils se sont retrouvés là. Il faudra nous expliquer, parce que là, on n'a pas eu le détail. Puisqu'ils sont en deuxième division mondiale.
C'est comme l'équipe de France de basket, fauteuil féminin. Je ne comprends pas. Comment elles font les grandes compétitions, mais elles sont là.
Bon, ils ont essayé, mais enfin, c'est vrai qu'en face, il y a vraiment du niveau. Ça va à une vitesse, ouh là là là. C'est un peu compliqué, quoi. Donc, voilà. Mais je regarde les matchs de hockey sur glace, c'est spectaculaire, quand même.
Oui. Et par contre... Ça, par contre, c'est spectaculaire.
Voilà, en finale, finale de, bien sûr, finale des féminines aux Jeux Olympiques, on retrouve un États-Unis-Canada...
Fabuleux.
Du classique, de normal, on peut dire. Ça a été un peu plus compliqué parce que, bon, là, j'ai regardé le match hier entre les États-Unis et la Suède où ils ont fini par gagner 5-0, les États-Unis. C'était un peu serré au début, au premier tiers-temps, 1-0 pour les États-Unis. Puis après, ils ont développé en deuxième tiers-temps. Mmh. Et donc, ils en ont mis 4 de plus. Donc, voilà. Mais par contre, après...
Il y a une disparité au niveau des niveaux, c'est vrai.
En soirée. Mais pourtant, la Suède faisait partie des bonnes équipes, soi-disant. Enfin, elles ont bien joué, d'ailleurs. Hein.
Après, quand on arrive avec les cadors...
Voilà, elles ont bien joué, mais bon, les États-Unis ont été... Les Américaines ont été plus précises et tout. Et puis voilà, donc elles ont gagné largement. Et puis hier soir, à 21h10, là, il y avait le match entre le Canada et la Suisse. Et le Canada a gagné 2-1, donc c'était assez... Donc en finale, on retrouve un États-Unis-Canada. Mais enfin, il n'y a eu qu'un but d'écart entre le Canada et la Suisse. Voilà. Donc, et maintenant, restent les quarts de finale des hommes au niveau du hockey sur glace.
Et j'ai appris une règle avant qu'on ait notre invité. On n'a pas le droit de se battre.
Non, chez les féminines, non. On n'a pas
même
le droit
chez les mecs.
À des charges. Mais alors... chez les mecs, c'est entre... Il y a un peu... C'est ce que j'ai compris des consultants et des journalistes. C'est-à-dire que c'est pas la NHL, c'est pas le professionnalisme au niveau nord-américain, entre le Canada et les États-Unis, avec les franchises, où ils se balancent, ils ont des pètes, là. Au niveau des Jeux Olympiques, au niveau des équipes nationales, ils ont droit quand même à des charges. Plus que les féminines, mais pas autant que, bien sûr, que les professionnels de NHL. Voilà.
Ouais.
Il y a quand même quelques charges qui sont autorisées.
Parce que j'ai vu que là.
Ne me demande pas de rentrer dans les détails, hein, mais parce que je ne connais pas assez ce sport.
Alors, voilà. Guy ?
Oui.
Sans transition.
Sans transition.
C'est comme ça qu'on dit.
Oui.
On a notre invité, un ami de Doradio.
Oui, un ami, oui, bien
qu'on
sûr.
Qu'on aimait avoir sur notre plateau.
Suivons sur les réseaux sociaux aussi.
Que j'espère que ça sera le futur champion de R3.
Oui.
Sauf devant le Bouska, n'est-ce pas? On va accueillir avec joie Anthony Touboul. Est-ce qu'Anthony est avec nous?
Oui, bonjour. Oui.
Bonjour, bonjour.
Ça va, Anthony?
Ça va bien, et vous?
Oui, eh bien bon, ça va, eh bien, on discute, tu vois, des sports d'hiver, quoi, parce que bon, le football, Il y a tellement de magouilles de partout, notamment du côté de la Canebière, que bon, on a un peu de mal à suivre, à tout comprendre.
Par contre, Guy, est-ce qu'Anthony, je t'ai bien présenté ? Est-ce que je t'ai bien présenté pour
oui,
les gens
oui,
qui nous
oui,
écoutent ?
Voilà, c'est très flatteur, mais bon, le championnat est très très long, donc je suis ambitieux, et c'est vrai que, étant dans la poule du Bouscat, ton cœur est partagé, on va dire.
Voilà. Alors justement, comment va le club de Chambéry, Anthony ?
Mais ça se passe très bien. Hein. Écoute, ça se passe plutôt bien. On a eu un petit début de saison un petit peu compliqué, mais dû à quelques mouvements de joueurs et donc une assimilation de notre méthode de travail. Mais sinon, écoute, ça se passe très bien. Cette année, on a créé une quatrième équipe senior et... bien, écoute, toutes les équipes jouent quelque chose pour l'instant, donc on va dire que tout est ouvert.
Parce que pour les gens qui nous écoutent, la dernière fois qu'on t'avait eu, c'est parce qu'il y avait eu un incident dans ton club. Tu étais venu gentiment nous expliquer ce qui s'était passé, et du coup, tout va bien aujourd'hui.
Ben oui, c'est vrai que c'était la dernière fois qu'on s'était eu, c'était pour l'histoire avec Gradignan, mais
oui.
Écoute. Ça va, tout est rentré dans l'ordre. Heureusement, ça a été qu'un seul événement. C'est vrai que ça a pris beaucoup d'ampleur parce qu'on l'a aussi voulu pour que enfin nos dirigeants prennent les choses en main, soit politiques ou sportifs. Et ça a fait un petit peu, enfin ça fait un travail depuis puisque ils ont enfin créé une cellule, bon, je vais pas dire de crise, mais une cellule où tous les gens, que ce soit l'État, que ce soit la police ou la gendarmerie, ou tout ce qui est lié à la mairie ou lié au club, ou au district ou à la ligue, ben, ils sont tous associés pour travailler main dans la main pour enfin éradiquer toutes ces violences qui pourrissent notre sport.
Oui, et la société
oui,
dans la généralité.
Oui, et pas que.
Exactement, la société avec, malheureusement.
Tu parlais du fait que tu étais ambitieux, justement. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes vraiment dans les clous concernant vos objectifs ?
Oui, même plus qu'on espérait, clairement, parce que, alors, on a une pression, puisqu'on essaye de faire monter le groupe première. L'an dernier, c'était le groupe 3 qui était monté, donc on a une équipe 1 en R3, une équipe 2 en D2 qui était montée il y a 2 ans, une équipe 3 en D3 et une équipe 4 en D4, donc les trois équipes se suivent. Mmh. Et donc, bon, on voulait attendre un petit peu de voir ce qu'il en était des groupes, parce qu'on se doutait que ça allait être compliqué en montant juste de créer quelque chose. Ben écoute... On a cette équipe 4 qui a été créée, ils sont premiers. L'équipe 3 qui est promue en D3, ils sont premiers, 12 victoires en 12 matchs. Et l'équipe 2, bah, qui est cette locomotive en district, bah, ils sont troisième à un point de la deuxième place et synonyme de montée. Donc bah, les trois équipes espèrent, et surtout l'équipe B pour être la locomotive, atteindre un objectif qui n'était pas envisageable réellement en début de saison, mais on se prend au jeu. Et donc la vraie priorité, c'était de faire monter ce groupe première, puisqu'on sort de 2 saisons en R3, une deuxième place, puis une troisième place. Donc on se dit, ben, la troisième, on espère que c'est la bonne, mais bon, c'est un championnat qui est difficile, puisqu'il y a... Il y a 12 prétendants pour une seule place. Mais on est dans le bon coup, avec Bouscat, que tu connais bien, et Saint-Pierre-du-Mont. Donc, ben, écoute, ça va être l'équipe la plus régulière qui va arriver à l'objectif. Donc, sinon, tout est ouvert. Donc, on est plutôt agréablement surpris de la saison du pôle senior.
Justement, tu parlais de l'équipe 4. Il y a combien de seniors à Chambéry aujourd'hui ?
On a une centaine de seniors, je vais dire. On a 104 seniors. On a quelques U19 qui ne jouent qu'en senior, puisqu'on a aussi 2 équipes U19. Hein. Donc on a quelques U19, on a 7 ou 8 qui sont dans le groupe senior. Et donc on doit être aux alentours de 110 seniors en tout.
J'avais une question globale, Anthony, parce que Tu connais un petit peu même beaucoup le football aquitain, un peu comme moi. Tu vois des choses. Sans parler de la locomotive Girondins de Bordeaux, c'est une anomalie qu'elle soit nationale d'or. On ne fera pas le débat tous les deux,
Oui.
sinon on fait une émission pendant 3 heures.
Oui.
Comment tu vois le football aquitain aujourd'hui?
Ben, je vais être très très alarmiste. Il est malade.
Voilà.
Il est malade parce que, comme tu as dit, notre locomotive qui est les Girondins de Bordeaux est en souffrance. Nous, ben, on est tous unanimes. Malheureusement, derrière les Girondins, on sait que malheureusement c'est l'aspect financier qui dirige un peu tout ça, et on voit tous nos clubs néo-girondins en très très grosses difficultés financières. On sait que malheureusement, quand on veut jouer en National 3, il faut montrer à la DNCG
Budget.
un programme financier qui tient la route. Moi, pour connaître un petit peu Cestas, je sais que ça a été très très compliqué pour valider leur place en National 3. On sait les clubs Lech Cap Ferré, par exemple, qui ont eu un encadrement
Et qui ont été repêchés.
voilà, qui a été repêché et qui a quand même un encadrement des contrats fédéraux. Il y a plein de clubs comme ça qui ont des vraies problématiques financières. Et malheureusement, quand on voit les clubs qui sont aux alentours, que ce soit en Occitanie ou en Bretagne, et je parle même pas de la région parisienne, on est des années-lumière à rivaliser avec ces clubs-là. Parce que, ben, faut être réaliste, la région bordelaise, malheureusement, n'est pas attractive. Alors, ça fait pas tout l'argent, hein, ça, je suis le premier sûr de ça, puisque il y a d'autres valeurs qui peuvent se générer, mais malheureusement, si on veut rivaliser avec des grosses écuries, mais, on a un peu de mal justement sans moyens, sans aide aux alentours, mais, à réussir. Après, il y a une gestion, il y a des clubs qui n'ont pas toujours une
Oui,
très très bonne gestion, et on voit malheureusement certains clubs qui ont longtemps trusté les premiers rôles juste derrière les Girondins. Ben, en très très grosse difficulté, et que en mode senior, c'est la vitrine, on le voit, mais malheureusement, on le voit aussi dans les écoles de football, où ben, ce qui était une référence il y a 5-6 ans, ben, se retrouve à rentrer dans la rampe parce que, ben, soit par manque de moyens, ou alors soit de l'encadrement pas au niveau, voilà, tout simplement.
Alors, avant de revenir à Chambéry, pour penser à ce que tu dis, j'ai une question là-dessus. Est-ce que tu penses qu'on est trop dans le monde, qu'on veut trop se diriger vers le professionnalisme?
Ben, on nous oblige. On
Voilà,
nous
c'est le mot
l'oblige,
obligation.
malheureusement.
Voilà, ok.
On nous l'oblige clairement. On le voit pour tous les clubs. Il faut avoir des éducateurs diplômés, ça c'est une importance, mais ça a un coût. Ça a un coût pour les clubs. Former des éducateurs, quand on doit passer un BMF, un BEF, où on est obligé pour justement avoir les équipes en niveau régional et compagnie, il faut avoir des éducateurs diplômés, et ça a un coût. Ça a un coût, donc c'est vrai que on se dirige vers tout ça. Donc c'est vrai que c'est lié à la formation, et c'est important, hein, bien sûr, de se former, mais je trouve que tout est lié à l'aspect financier. Il faut des arbitres. Malheureusement, les arbitres, ben, sont pas tous, on va dire, bénévoles, malheureusement, hein. Certains se font monnayer pour représenter le club. Donc il y a tout est question d'argent, malheureusement. Et je ne parle pas des joueurs qui touchent des primes de match ou qui touchent
Oui.
malheureusement des petits fixes. Alors on peut dire qu'on n'a pas besoin de le faire, mais ok, pour les joueurs, on n'a pas besoin de le faire, mais malheureusement, pour le reste, ben, c'est difficile de trouver des arbitres qui ne se font pas monnayer. On a la chance, nous, à Chambéry, d'en avoir, mais je sais que pour des clubs amis, ils sont obligés, malheureusement, de monnayer quelque chose pour avoir des arbitres, parce qu'ils n'arrivent pas à en trouver. Donc, on est obligé de, malheureusement, de se professionnaliser, donc de mettre de l'argent, et ça va pas aller en s'arrangeant, malheureusement, parce que je trouve que ça se durcit un peu plus. et on oublie certaines valeurs. Donc oui, on devient un peu plus, on nous oblige à professionnaliser un peu tout ça.
Pour revenir sur ce que tu disais sur Chambéry, combien d'éducateurs diplômés du coup?
Alors, le plus haut diplômé, c'est un BEF. Sinon, on a 5 BMF. Et après, c'est l'éducateur fédéral. Donc, c'est soit le diplôme pour encadrer les jeunes. Alors, je ne sais plus comment il s'appelle, il a changé le avant, c'était éducateur senior. CFF1, CFF2, CFF3, là. Mais maintenant, ça a changé. C'est DF. Ou je ne sais plus comment ça s'appelle. Donc on doit en avoir 7 ou 8 en tout. Mais après on a beaucoup d'équipes.
Et oui.
Et oui. On essaye de former nos éducateurs. Mais ça a un coût. Tout ça, ça a un vrai coût.
Et du coup, tu parlais d'objectifs pour l'équipe 1. Et c'est pour l'équipe R3, tu es sur un groupe de 16 à 18 joueurs?
24 joueurs.
Ah, c'est le Barça Chambéry, hein, dis-tu. 24 joueurs, c'est magnifique.
24 joueurs.
Non, je plaisante.
24 joueurs et 2 gardiens. Donc un gardien titulaire en équipe A, et ouais. J'ai toujours un deuxième gardien. Le deuxième gardien, c'est le gardien de l'équipe B, qui a les qualités pour jouer en équipe première, et il travaille les mardis, les jeudis, puisqu'on fait 2 entraînements. Avec le groupe premier.
D'accord.
Donc 24 joueurs plus 2 gardiens.
Vas-y, Guy.
Au départ, je partais, en principe, c'était beaucoup. Et en prenant un petit peu de recul, écoute, 24, si on arrive à donner à manger à tout le monde, comme on dit, avec la Coupe de France, la Coupe de Nouvelle-Aquitaine, la Coupe de Gironde, le championnat, et après, il faut être attractif, c'est sûr. On arrive à donner un petit peu à tout le monde. Alors c'est sûr qu'il y en a certains qui jouent plus que d'autres, mais on arrive quand même à faire jouer quand même un nombre de joueurs. Moi tous mes joueurs là, tous les 24, les 24 ont fait au moins une feuille de match en équipe première.
Est-ce que vous êtes à combien de matchs depuis le début de saison?
Championnat de coupe. Comment?
Vous êtes à combien de matchs depuis le début de saison, pour donner un exemple?
Alors en championnat on est à 12, en Coupe de France malheureusement on s'est fait sortir au premier tour contre Saint-Bruno, donc on a un seul match, et là on rentre au sixième tour de Nouvelle-Aquitaine, et il nous restera encore la Coupe de Gironde quand on sortira de la Coupe de Nouvelle-Aquitaine.
D'accord.
Donc ça fait...
Donc sur 13 ou 14 matchs, tu as pu concerner 24 joueurs.
18 matchs.
Bon, et puis peut-être, je ne sais pas, mais dans ces 24, tu as peut-être aussi eu quelques blessés, non? Ou tu as quelques blessés, non?
Il y a des blessés, il y a des suspendus. Tu vois, c'est une saison, c'est aléatoire. Alors cette année, on a eu pas mal de bobos au début de saison. Là, je touche du bois, j'en ai un qui est blessé réellement. Les autres reviennent, donc on a quand même un bon vivier de joueurs disponible pour justement atteindre nos objectifs qui sont très élevés, et tout le monde joue le jeu, donc c'est plutôt positif pour le club.
Voilà, mais alors bon, ça paraît 24, ça paraît beaucoup et peu à la fois, quoi, parce que quand tu vois tout le... Ouais,
24 avec une moyenne de fréquence de 20 joueurs par séance.
Et oui. Et alors ça d'ailleurs, par rapport à ça, c'était la question suivante. Ça vous a pas trop gêné, parce que bon, depuis un mois, il pleut, il arrête pas de pleuvoir, les tempêtes, la tempête Nils, etc. Vous êtes arrivé à vous entraîner quand même ou pas trop?
Tu m'aurais posé la question il y a 2-3 ans. Moi j'ai connu la galère à Chambéry, faut être réaliste, j'ai connu la galère, on s'entraînait sur le stabilisé à l'époque, on a même eu une période où pas de terrain, et le club finançait une location de terrain au BEC, au domaine universitaire, on a été un peu les globe-trotteurs un petit peu dans tout Villeneuve pour s'entraîner,
oui.
Et c'est vrai que depuis 2-3 ans, enfin 2 ans vraiment, où on a la chance d'avoir un synthétique.
Ouais.
Et c'est un vrai luxe pour avoir le nombre de clubs qui m'ont contacté la semaine dernière pour faire rien qu'un match amical C'était incroyable. C'est-à-dire que j'ai eu des équipes de D1, de R3, de R2, de R1 qui étaient prêts à vouloir faire un match amical afin de les recevoir pour qu'ils gardent du rythme. Et ça, c'est vrai que je peux reconnaître que ce luxe-là, j'ai vécu les vraies problématiques qu'ils rencontrent. Et je peux comprendre que c'est très difficile de trouver un moyen de garder son groupe concerné, de garder un groupe qui s'entraîne, parce que ça peut être compliqué. Là, on a joué contre une équipe, un club ami, pareil, donc Belin-Belier. Ils m'ont annoncé qu'en un mois, ils sont entraînés 3 fois.
Eh, voilà, c'est ça. C'est donc pour ça que je te posais la question.
C'est compliqué pour eux. Et donc, bien sûr, on les a accueillis, on a fait un match amical. Et d'ailleurs, malheureusement, ça s'est vu. Ça s'est vu physiquement. Moi, j'ai la chance d'avoir deux équipes qui s'entraînent tout le temps. Parce que 24 joueurs, c'est quasiment deux équipes, j'appelle ça.
Oui.
Que eux, malheureusement, ils ont explosé en plein vol à la 60e. Parce que
physiquement, c'est dur.
Et d'ailleurs, même ils ont eu un ou deux bobos dans ce match-là. Parce que quand tu n'entraînes pas, ton corps subit.
Bon, donc vous, ça vous a pas trop dérangé, quoi.
Non, honnêtement, ouais. j'ai vraiment beaucoup de chance depuis 2 ans où je peux travailler dans de très très bonnes conditions.
Ah, mais tant mieux.
Bon,
tant mieux.
Bon, Anthony, sans parler du Bouska qui est dans ta poule, parce qu'on va pas dire choses. quelle est l'équipe qui t'a le plus impressionné dans ta poule?
La plus structurée, pas impressionnée, mais structurée, ça a été l'équipe qu'on a réussi à battre ce week-end, le week-end dernier, Saint-Pierre-du-Mont.
Je confirme, très belle équipe.
Voilà, c'est une équipe très structurée, des joueurs qui ont joué bien au-dessus. Ils ont des joueurs qui ont joué en niveau national, dont un jeune qui est très très bon, un attaquant.
Oui.
Qui a juste 22 ans, hein, donc qui est revenu dans le coin chez eux pour raisons familiales, mais c'est un joueur qui pourrait faire les beaux jours largement d'Arcachon, Lège ou Cestas, ces équipes de niveau national sans hésiter, parce qu'il était vraiment dessus. Donc oui, ce club-là de Saint-Pierre-du-Mont, on a pris 3-0 chez nous. Au match aller, ça nous a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal, mais aussi beaucoup de bien, parce que ça nous a permis aussi d'analyser nos contre-performances et justement de se remettre le bleu de chauffe et de se remettre à travailler deux fois plus pour gommer ces lacunes. Et c'est, on va dire, un mal pour un bien, puisque derrière, à part une contre-performance contre Arcachon, on n'est que sur des victoires. Donc c'est une bonne réaction. Mais c'est cette équipe-là qui est la plus structurée pour moi.
Bon, c'est bien, on voit les mêmes choses. Non, c'est vrai que j'avais vu le match de notre B contre Saint-Pierre-du-Mont. Et effectivement, hein, je peux le dire parce que Baba l'a dit, on a fait 3 partout. Je me demande encore comment on a pu faire 3 partout. Parce que c'est vrai que même footballistiquement et tout, c'est du bon niveau.
Cohérent.
Oui, c'est très cohérent. Ouais. Et donc du coup, si je vais en t'écoutant, l'objectif est du club.
Et de monter.
De monter.
Non, on ne se cache pas.
Tu l'assumes,
Moi, je ne me suis jamais caché. Tu sais, je suis un compétiteur depuis toujours.
Tu ne fais pas une pierre sage, quoi. D'accord, ok.
Moi je rentrais, quand j'étais joueur, je rentrais sur un terrain pour le gagner. Pas pour faire de match nul, pas pour faire la figuration. Je ne gagnais pas tout le temps. Mais en tout cas, dans mon esprit, je rentrais pour gagner. Même si l'équipe était sur le papier la plus forte et compagnie. Ça reste qu'une histoire de 11 bonhommes contre 11 bonhommes. Et donc, cette année, on a clairement, même en changeant, enfin en prenant 12 nouveaux joueurs, notre discours a été très clair. C'est de jouer quelque chose. Et donc, ça peut créer des tensions, ça peut créer des distractions, mais en tout cas, notre ambition, elle n'a pas changé. On veut être au plus haut possible. Et donc, cette année, on l'a annoncé dès le départ, on joue quelque chose, on joue une montée, même si on sait que 12 prétendants, une place, les places sont très chères. Donc,
oui,
il fallait pas trop prendre de retard au démarrage.
Et sur aujourd'hui, quand tu parlais de structuration, de club mieux structuré et tout ça, comment tu places ton club aujourd'hui ?
Écoute, c'est ma 8e saison. D'un petit club de quartier, parce que Chambéry, c'est un quartier de Villeneuve d'Ornon.
Hein. Oui.
Où il y avait juste 200 licenciés. Moi, je suis arrivé, il y avait une équipe totalement à reconstruire, il y avait 15 seniors enregistrés. En se remontant les manches, que ce soit Guillaume, mon président, deux, trois personnes dans l'école de football sérieuse, on a bossé. On n'a pas toujours réussi de suite, mais on a bossé. Puis l'année suivante, on a commencé à se renforcer avec certains joueurs, certains encadrants sérieux aussi. Et donc, petit à petit, ça a pris une bonne proportion. Et écoute, 8 ans après, on est 870. D'ailleurs, on est passé devant Bousca.
Oui, j'ai vu ça. J'ai vu ça il n'y a pas longtemps. Oui.
On est passé deuxième club en Nouvelle-Aquitaine en termes de licenciés.
Ah d'accord, voilà. Oui, quand même.
Donc le petit club de quartier a fait plein de petits. Mais ça ne se fait pas comme ça, il ne faut pas se leurrer. C'est un travail de longue haleine. Beaucoup de main dans le cambouis, voilà, avant de récolter le travail de notre travail.
On va dire. Que sur du long terme. Hein,
voilà, beaucoup de main dans le cambouis, beaucoup d'heures sur le terrain, beaucoup d'heures au téléphone, beaucoup de voilà dans tout ça. Et on est sur une dynamique très 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 positive puisque chaque année pratiquement on prend 80 licenciés en plus. Donc
et justement, l'effet du synthétique, ça doit aider.
Et on remercie la mairie justement pour ça. Parce que elle a vu notre essor et qu'elle a adhéré à ça et elle nous a épaulés en nous offrant des infrastructures qui puissent justement répondre à ce développement quoi. Donc c'est vrai que sans ça, on n'aurait peut-être jamais pu atteindre plus de 400 licenciés.
Oui, alors par rapport à ce nombre de licenciés et tout, et ce terrain synthétique, là, même si je pense beaucoup de monde peuvent jouer dessus, un seul terrain, ça suffit pas, vous devez en avoir d'autres, non ?
Oui, on n'a pas que celui-là. On a deux terrains synthétiques.
Ah.
On en a un qui est au bocage, donc c'est un vieux synthétique.
D'accord.
Alors pour l'instant, on s'en sert pas pour jouer. Hein.
Oui, voilà.
On s'en sert que pour s'entraîner.
Et voilà, mais ça sert pour les entraînements, ouais, quand même.
Voilà, on a un terrain synthétique à Brossolette, le dernier arrivé, qui est 100% utilisé.
Mmh.
C'est-à-dire qu'il est utilisé du lundi 17h30 et je parle pas des week-ends, mais du lundi au vendredi soir 22h.
Mmh.
Donc il est et le mercredi toute la journée de
oui.
14h à 22h. Donc oui. C'est des terrains. Ce terrain-là, il est ultra exploité. On a un terrain en herbe qui a été un peu refait, mais bon, vu les conditions, on
oui.
peut pas jouer dessus.
Voilà.
Et il y a aussi la mairie a fait un nouveau terrain synthétique depuis cette année à la piscine, mais l'AS Chambéry et un peu les Portugais de Villeneuve qui l'utilisent et nous on peut l'exploiter aussi un petit peu donc ça on peut pallier à toute éventualité mais c'est un travail quand même de je veux dire un travail d'orfèvre pour l'organisation
pour les plannings
exactement et ça c'est Guillaume qui gère ça et il est très 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 bon, très compétent dans l'organisation.
Ouais. Il jongle, on va dire ça comme ça.
Il est très fort. Honnêtement, il est très très fort sur ça, parce que pour arriver à rentrer quand même autant, voilà, autant de monde sur les terrains, c'est que l'organisation est millimétrée.
Dernière question, Anthony, enfin deux d'ailleurs. Une dernière question pour toi. Aujourd'hui, donc, l'objectif est de monter et tout ça, mais on voit surtout que tu te sens bien à Chambéry.
Oui, moi, on me laisse travailler. Tu sais, moi, je suis plutôt connu pour être un bâtisseur. Oui. Mais pour pouvoir bâtir, il faut me laisser avoir des outils dans les mains pour construire. Le club a eu confiance en moi, m'a laissé les clés. Et donc, depuis 8 ans, avec des gens viables autour de moi, parce que tout seul, j'y arriverai pas, mais avec des gens viables autour de moi, on a réussi à construire quelque chose de plutôt attractif maintenant. Mmh. Je suis plutôt heureux à Chambéry. Après, on ne sait jamais ce qu'est l'avenir. Hein. Tu sais qu'un entraîneur, son avenir, elle est tracée aussi sur les résultats, elle est tracée sur plein de choses. Je ne sais pas si je serai l'année prochaine au RC Chambéry.
Il nous fait une Benatia.
Oui, hein, c'est ça.
Il nous fait une Benatia.
Tu cherches un agent ou quoi?
Non. Je suis quelqu'un de réaliste, c'est-à-dire que moi, j'ai envie de continuer. Je me suis posé la question clairement, hein, en toute franchise, en début de saison.
D'accord.
Savoir si le groupe continue à adhérer, est-ce que le discours passe toujours, parce qu'on peut se poser, on doit se poser la question. Hein. Moi, je me pose la question tout le temps. Et ça a été un peu compliqué en début de saison, donc ça m'a mis des doutes. Et à mi-parcours, je m'aperçois quand même que le groupe, même s'il a un peu évolué, tout le monde adhère. Donc j'ai envie de continuer, c'est une vérité, mais je ne suis pas le seul décisionnaire, puisque derrière, il y a un bureau, il y a un président, donc peut-être qu'eux ont envie de changement. Donc c'est pour ça que moi j'ai envie de continuer. Si on me laisse les moyens encore de bosser correctement, j'aimerais continuer. Alors bien sûr, monter ou pas monter, hein, ça sert que si le groupe adhère, il n'y a pas de souci. Mais on ne sait pas ce qu'est l'avenir, malheureusement, puisqu'on n'a pas toutes les... je ne suis pas décisionnaire sur tout, en fait, tout simplement.
Et dernière petite question que j'aime bien poser à notre invité. Si tu avais un futur invité à nous proposer pour la semaine prochaine, ça serait qui?
Un futur invité?
Ouais. Je sens qu'il va me piéger, écoutez bien.
Ouais, je pourrais dire quelqu'un que tu connais très très bien, mais bon,
non.
Je pense qu'il a envie d'être tranquille, oui. à bosser dans son coin, puisque lui aussi il joue quelque chose.
Oui.
Mais je sais pas, honnêtement, je sais que ça bouge un peu partout là. Il y a un club qui a bien bougé là. Je sais pas, peut-être le futur entraîneur qui va peut-être prendre la place, mais bon, ça peut être un peu juste.
Le futur entraîneur de Villeneuve, tu parles?
Non, oui. Ils vont changer d'entraîneur.
Oui.
Sinon, je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Je sais pas du tout. Un club qui bosse bien, qui... T'as Mérignac, ouais, avec Clément Tapie, par exemple.
Ah, on l'a eu
la semaine dernière.
Ouais, on l'a eu, pas mal.
Ah, pardon, excusez-moi.
Mais non, mais bon, comme quoi, c'était une personne.
Qui bosse bien, donc...
Ouais. Après, c'est vrai qu'ils font un tour de Gambardella la semaine prochaine, tu as raison.
Ouais, ouais, ouais.
Contre l'Olympique Lyonnais.
Pas lui, mais bon.
Enfin, le club.
Le club.
Ouais.
Ouais.
Les jeunes de Villeneuve, les 17 ans.
Ah oui, qui sont en national, tout à fait.
Ah. Voilà ouais. Une bonne idée. Et alors, c'est marrant parce que, pas là par rapport à, je sais pas s'il y aura plagiat ou quoi, mais tu sais que ton idée de demander à l'invité qui voudrait qu'on interviewe la semaine d'après, France Football le fait depuis des années avec les joueurs qu'ils interviewent. Hein.
Je l'ai plus France Foot.
Et ouais, donc à la fin, ils leur demandent quelle personne vous souhaiteriez voir dans le journal le mois prochain.
D'accord. Oh, mais ça,
parce que moi qui suis abonné à France Football depuis déjà quelques années, depuis la nouvelle formule notamment. Et en même temps de ça, alors c'est pour ça, ça me fait penser à ça avec
alors,
Alexis.
Attention qu'il ne vous demande pas des royalties.
Voilà, c'est ça, hein, fais attention. Hein.
Et par contre, alors je sais que tu es un garçon de parole, et je sais que si vous montez, tu viendras en plateau.
Ça, avec je le sais. Avec un grand plaisir.
Oui, oui, oui.
Grand plaisir.
Ouais. Bon, et toujours supporter des Girondins?
Ah non, tu vas lui faire mal.
Jusqu'au bout. Et bon. J'espère que cette année, on va enfin retrouver un petit peu de sourire, on va dire.
Ouais,
parce que ça fait quelques années où malheureusement, on ne sourit plus beaucoup. Espère que même si ça reste que de la Nationale 2, il faut se contenter d'une base de départ pour une reconstruction. Et si on pourrait, à la fin de l'année, avoir du sourire et atteindre cette Ligue 3, qui est synonyme de retour au niveau professionnel. On l'espère, même si malheureusement, on ne sait même pas si, même si on arrive à atteindre cet objectif, on puisse y être, suivant les dettes qu'on a encore et suivant la procédure qu'il faudra pour montrer patte blanche à la DNCG.
Par rapport à ça, Guy, tu te souviens que Arnaud de Carly nous a fait la promesse qu'en cas de montée, M. Irles viendrait en plateau.
Ah oui.
On espère qu'il viendra. Oui. Ça voudra dire qu'il a monté. Mais
qu'il a monté. Oui, oui. Mais bon, en ce moment, ça va mieux. On voit un peu plus de spectacles.
Oui. J'aimerais bien que la Roche-sur-Yon calme un peu.
Calme un peu.
Ouais, c'est pas eux que j'ai envie d'inviter. C'est vrai, tu as raison.
Il faut, c'est là-bas qu'il faudra aller les battre, c'est ça?
Oui.
Exactement. Bon, après, il y a un match important vendredi.
Oui.
Puisqu'ils vont se déplacer à l'Aviron Bayonnais.
Oui.
Il y a une très belle équipe.
Oui.
Et donc, c'est le troisième, donc j'espère
que l'Aviron
va prévenir un peu l'ardeur actuelle de la Roche-sur-Yon, parce qu'ils font un championnat de haut niveau. Donc, ce serait bien qu'ils calent un peu, parce qu'on a toujours 3 points de retard sur eux.
Et voilà, c'est ça le problème.
Hein. Sinon, j'ai le numéro de GL, je peux donner ton contact, hein, si tu veux, mais... non, je plaisante, Tony, tu le sais.
Voilà.
Mais en tout cas, moi... Tu sais, si Chambéry monte et que le Bousca se maintient en R3, je serai content.
Bon, ça me va alors.
Donc, c'est ce que je te souhaite. Merci à toi, Anthony, et bonne soirée.
Moi, je signe. Écoute, oui. Je signe pour la montée de la R2 en R1 et la montée du RC Chambéry en R2. Donc,
il est 17h48, je vais l'enregistrer, ça, tu vois.
Bon, Baba sera pas content avec l'abbé, mais vous aurez au moins... un sourire, puisque la première pourrait monter.
Je rappelle que l'objectif de l'AB, c'est le maintien, quand même.
Donc,
est content.
Moi, je connais aussi bien Baba.
Oui, moi aussi.
C'est un compétiteur et il a faim.
Oui. Et tu le sais, parce que je crois que tu l'as fait, coacher une équipe réserve, c'est pas évident.
Et c'est pas évident, ça c'est vrai. Et moi j'ai même coaché une équipe réserve de la réserve.
Oui, il y a trois, c'est vrai.
Encore plus compliqué.
Donc écoute, merci Anthony.
Ouais, merci.
Et merci à vous deux.
Et puis à bientôt, je l'espère sincèrement.
Avec un grand plaisir.
Et puis bonne soirée.
Allez, bye.
Et allez Monaco.
Au revoir.
Ciao. Ouais,
ah, pourquoi il aime Monaco?
Non, c'était une taquinerie parce qu'on avant de faire l'interview, on a parlé du match tout à l'heure.
D'accord.
On en est venu au même truc que le PSG allait gagner ce soir.
Oui.
Mais on a parlé de Monaco et du Prince Albert quand même.
Ah, et du Prince Albert, ça. Mais ça,
et de son yacht.
Oui, alors ça fait. Alors tu sais, ça c'est un plaisir entre guillemets de femme. C'est-à-dire.
Je sais ce que tu m'as dit.
C'est-à-dire que chaque fois que ma femme passe devant la télé. Et qu'il y a un match de ce style, de Monaco, de le France-Galles, des Anglais au rugby, etc. Est-ce qu'il y a le prince William? Est-ce qu'il y a le prince de Monaco? Ils ont montré le prince de Monaco. Et voilà, parce que... Caroline, oui, Caroline. Voilà, donc ça intéresse surtout les femmes, quoi. Tu es en train de...
D'envoyer
des messages.
Oui, parce que les gens...
Pendant qu'on passe à la radio, c'est incroyable.
Alors, si tu savais avec qui j'échange...
Ah.
Le futur acquéreur d'Eau de Radio. Non, c'est pas vrai du tout.
Ah, ouais.
Non, ce que je voulais dire, pour revenir sur ce que disait Anthony, quand même, c'est qu'on laisse du temps aux gens et les clubs avancent.
Oui.
Ça fait 8 ans qu'il est là, on voit
c'est
les avancées.
C'est ça, mais c'est ça, c'est bien. Alors, un mois après, dans les questions, par rapport au... Bon, on n'a pas été, on n'a pas continué avec Anthony.
On aurait mais pu faire deux
on aurait pu, oui, c'est sûr, mais c'est intéressant. Parce qu'il parlait beaucoup d'entraîneurs formés, etc., à tous les niveaux et tout. Est-ce que, par exemple, dans un club comme Chambéry, qui brasse sûrement peut-être 400 ou 500 gamins, parce qu'ils ont 800 et quelques licenciés, donc avec une centaine d'adultes, est-ce que le fait de former, d'avoir des formateurs de bon niveau, peut arriver un jour à sortir un gamin ou plus ou deux ou trois gamins qui vont accéder au professionnalisme, qui vont ou est-ce qu'il faut vraiment un club phare professionnel comme les Girondins à une époque pour sortir des joueurs susceptibles d'aller vers le haut niveau, ou alors déjà de faire de la bonne formation dans tous les clubs de la Nouvelle-Aquitaine, ça suffit pour... Mais après, on va se les faire piquer par les autres régions. Eh bien, c'est ça, le problème.
Mais l'exemple est simple, Guy, c'est que je vais te donner des exemples clairs. Au SAM,
oui.
Il y en a deux. Ils sont partis au Mans,
d'accord,
et au Paris Saint-Germain.
Ah, d'accord.
Parce que les Girondins,
voilà,
n'existent, voilà, enfin, n'existent plus.
Ouais.
Ne sont plus,
oui,
un centre de formation, ne sont plus professionnels.
Mais quand même, il y en a deux qui sont arrivés à...
Oui, oui, mais je préférerais les voir aux Girondins de Bordeaux.
Oui, bien sûr. Voilà.
Ou sinon, à côté, il parlait, Anthony, tout à l'heure, de l'aviron Bayonne.
Oui.
Ils vont à la Réal.
Oui, ils vont à la Réal. Ils vont à Saint-Sébastien. Oui, oui, oui. C'est ça, ouais. Ouais, ouais, ouais. Donc, il faut quand même une structure professionnelle pour après qu'ils puissent rester dans la région, quoi. Parce que sinon, certains clubs arrivent à sortir quelques gamins, mais bien sûr, après, ils sont absorbés par des structures professionnelles pour pouvoir continuer leur formation. Voilà. Donc, ça, c'est une problématique. Mais bon, malgré tout, ça alimente quand même le vivier régional.
Et après, on parlait de Ligue 3. Qui veut devenir donc professionnel.
Oui, professionnel.
Mais il ne faut pas se leurrer quand on voit l'état des finances en Ligue 1 et Ligue 2. Quels vont être l'état des finances des clubs de Ligue 3?
Ah oui, ça, alors ça c'est sûr.
Surtout que la Ligue 3 sera toujours sous l'égide de la Fédération Française de Foot.
La Fédération Française de Foot. Parfois, entre guillemets, on voudrait bien que la Fédération Française de Foot, parfois, ait tout sous contrôle. Parce que quand on voit ce qui se passe à la Ligue professionnelle...
Je crois que pour 2027, c'est prévu.
Je crois. Je crois. Il me semblait, parce que vu le souk qu'il y a en ce moment au niveau de la Ligue professionnelle...
Du foot professionnel tout court.
Tout court, et puis de Ligue 1+, plus, là, etc., c'est pas gagné l'affaire. Hein. Donc c'est vrai que si la Fédé remettait un peu d'ordre dans tout ça, ça serait peut-être pas plus mal. Ça serait peut-être un gage de sécurité. Parce que là, on sait pas où partent les clubs, quoi. À part certains clubs... qui, en ce moment, on le vend en poupe, mais et des éloges arrivent de partout, du style de Lens, bien sûr, avec Oulagourian, là, le président...
Ougourian.
Ougourian, qui gère très bien son club, apparemment, qui est, bien sûr, plébiscité par tout le monde, et puis par, bien sûr, l'entraîneur Sage. Et
Pierre Sage qui a fait ses classes au bas niveau.
Et oui, bien sûr.
Attention, c'est à souligner.
Oui, ah oui, oui, bien sûr.
Il a démarré en national avec notre ami Habib Bey. Enfin, c'est pas mon ami, mais c'est le nouvel ami des Marseillais depuis quelques heures.
Mais voilà, donc c'est vrai que, mis à part ces quelques structures qui s'en sortent un petit peu, mais on ne sait pas si au niveau... Ils font des opérations financières en vendant des joueurs un petit peu, en récupérant d'autres... comme toujours, qui arrive, mais c'est vrai que la majeure partie des clubs professionnels français sont un peu dans le rouge. Hein. C'est difficile.
Guy,
hein.
On pourrait en parler, ça serait bien d'avoir quelqu'un du rugby, mais de haut placé peut-être. Mais imagine, tu parles de finances, imagine 30 secondes, je ne le souhaite pas, que Laurent Marty arrête à l'UBB.
Ah oui, 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 c'est ça.
Parce
que
c'est du mécénat pur. Hein.
Ah oui, non, mais ça, oui, Laurent Marty, c'est lui qui a tout remonté. Bon, il y a beaucoup, beaucoup de partenaires
depuis,
maintenant autour.
Mais
il est capable de fédérer.
Mais lui, le jour où... je dis pas... Non, je pense que tant qu'on sera pas champion, il n'arrêtera pas.
Oui.
Mais c'est un débat qui pourrait durer un moment. Mais aujourd'hui, des mécènes, de toute façon, c'est compliqué.
Oui, non, non, mais c'est compliqué, mais...
On parlait de Rennes tout à l'heure et on parlait de formation. Quand je vois que carrément à la télévision, pendant le match Marseille-Rennes, qui était sur France 2, je crois... Oui, c'était la Coupe de France. Donc
ah
c'était
oui,
en clair.
Pour la Coupe de France, oui.
Ils ont parlé que d'argent et ils nous ont dit ils ont vendu pour 400 millions grâce au centre de formation.
Oui,
on
ne
parle même
oui.
plus de sport.
Oui, non, non, ça c'est sûr que quand on est dans, à l'heure actuelle dans le monde du professionnel, on ne parle plus que d'argent, c'est vrai. Mais c'est vrai que les clubs, petit à petit, sont en difficulté. Et puis là, on est en train de parce que le seul truc où ils peuvent encore gagner un petit peu d'argent, mais ça se réduit au fur et à mesure, c'est la fameuse plateforme Ligue 1 Plus où on est abonné à...
Ça se trouve, bientôt, ça va être Ligue 1 Moins.
Hein, ouais, c'est ça le problème. C'est qu'en ce moment, là, j'ai vu passer ça l'autre jour sur les réseaux sociaux. Ils essayent de faire un sondage pour savoir qu'est-ce qu'on pense de Ligue 1 Plus. Si tu vois les retours, c'est très, très varié, mais ça va plutôt dans les moins que dans le plus. Hein. C'est-à-dire que les gens ne sont pas forcément convaincus par le système, parce qu'il y a beaucoup de problématiques liées à la diffusion. On n'arrive pas à voir les replays, on n'arrive pas à voir telle émission après tel match, on n'arrive pas à voir ceci, cela, on paye cher, on paye ceci. Bon, après, il y a le problème, c'est toujours pareil, le problème des commentateurs et des consultants. Bon, mais ça, chacun voit...
midi à sa porte.
Midi à sa porte, comme on dit, c'est sûr. Mais voilà, et alors le souci, là aussi, c'est que... Est-ce que, parce qu'ils ne le feront sûrement pas, c'est que sur l'année ou sur les deux ans où Amazon avait pris le lead par rapport à ça, les mois d'été, pendant que...
Il n'y avait pas d'abonnement payant.
Il n'y avait pas d'abonnement payant. Mais là, et tu te rends compte que si les clubs, pendant deux mois, si Ligue 1 Plus ne fait pas
on
payer...
On doit payer 14 balles, oui.
Ouais, mais s'ils ne font pas balles. Payer, ils ont un trou encore plus. Déjà que ça rapporte peu au club, alors...
Alors, Guy, on va jouer un jeu pendant la dernière minute.
Bon, alors vas-y.
Parce qu'il est 58.
Ouais, il est 55, ouais, ouais.
Monaco-Paris-Saint-Germain.
Ah oui, Monaco-Paris-Saint-Germain.
Ton pronostic.
Alors, comme il y aura sûrement
non, mais juste
le prince,
ton pronostic.
Il y aura sûrement le prince qui sera revenu d'Italie parce qu'il remet les médailles là-bas. Donc, il n'est pas loin, donc il va revenir, il sera dans les tribunes. Comme il y aura le prince, et puis sûrement à côté, il y aura toujours Ribolef, là. Oui. Ribolobleff. Bon, on peut dire, allez, on va dire Monaco 2-1.
Ouh, t'es ambitieux.
Ouais, allez, pour Monaco.
Galatasaray-Juventus.
Ah oui, Galatasaray-Juventus. Moi, les Turcs, moi je vois les Turcs. Les Turcs,
c'est Galatasaray-Juventus.
Ah oui, c'est ça, c'est Galatasaray-Juventus. Donc chez eux, ils vont gagner. Ils vont gagner 2-0.
D'accord.
Voilà.
C'est un replay, hein. Je le dis pour les gens qui nous écoutent. Si Guy a bon la semaine prochaine, il va me le dire.
Oui.
Benfica-Real de Madrid.
Et Benfica-Real de Madrid, avec que des arbitres français et un arbitre anglais, à la VAR.
Oui.
Donc le Texier va être au centre, Brizard va être à la VAR, Pignard va être quatrième arbitre, je crois.
Oui.
Voilà, donc toute une pléiade d'arbitres français pour ce match. À Benfica, le Real est pas mal en ce moment. Allez, je dirais 1-0 pour le Real.
Et pour finir, il nous reste 40 secondes, Dortmund-Atalanta.
Ah oui, Dortmund-Atalanta à Dortmund. Dortmund va gagner. Allez, 2-1.
D'accord, c'est enregistré, c'est dans la boîte.
Ouais, toi, tu te mouilles pas, t'as rien dit.
Ah si, moi, je dis que Paris va gagner, que va y avoir un match nul entre Benfica et le Real Madrid, que Dortmund va gagner, et il en manque un, je crois, et Galatasaray va gagner.
Ouais, alors tu vois, maintenant, c'est les Japonais, je crois, qui expérimentent ça. Plus de matchs nuls au football. Allez, il faut gagner.
Il faut aller au tir au but.
Faut marquer.
Voilà, Guy. Alors, la semaine prochaine, on sera là.
On sera là.
De bonne humeur, c'est sûr.
Et on parlera pétanque.
Ah
oui, là,
Tu
tires ou tu pointes. Attention, hein, la pétanque, c'est important.
Bonne soirée à vous.
Allez, bye bye.
Au revoir.
Merci à la technique.
Dans notre cher petit Bayonne, il est une peña. La Peña Bayona.